Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 8 de la Sainte Sourate Tine. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
والتين والزيتون وطور سينين وهذا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين
par la figue et par l'olive, et par le mont Sinin, et par cette cité sûre. Très certainement, nous avons créé l'homme en la plus belle stature. Ensuite, nous l'avons renvoyé au plus bas des bas, sauf ceux qui croient et font œuvre bonne, car à eux, un salaire jamais interrompu. Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter de mensonge la rétribution? Dieu n'est-il pas le plus grand juge des juges?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce dimanche 8 août 2021. Nous allons vous présenter dans quelques instants le journal suivi d'un commentaire politique. Mise en scène, fausse preuve, les États-Unis auront-ils leur guerre contre l'Iran? Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci de votre écoute. Au sommaire de ce journal, le leader de la révolution, l'honorable Ayatollah Khamenei, félicite les médaillés des Jeux olympiques de Tokyo de 2021 de l'Iran. L'Iran demande de démêler les dimensions cachées de l'incident de Mazar-e-Sharif. Et puis l'anniversaire du bombardement atomique d'Hiroshima et de Nagasaki, un rappel du grand crime américain contre l'humanité, déclaration de Téhéran. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le leader félicite les médaillés des Jeux olympiques de Tokyo 2021. L'imam Khamenei a adressé un message aux médaillés iraniens aux Jeux olympiques de Tokyo 2021. À la fin des compétitions sportives des athlètes iraniens aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, l'Ayatollah Khamenei a remercié dans un message les médaillés de la République islamique d'Iran. L'équipe iranienne a remporté 7 médailles, 3 d'or, 2 d'argent et 2 de bronze, en tir, lutte libre et gréco-romaine, l'haltérophilie et karaté aux Jeux olympiques de Tokyo 2021. Jeux olympiques karaté, l'Iranien Ganjizadeh décroche l'or à Tokyo. Le karatéka iranien Saïd Ganjizadeh a réussi à vaincre son rival saoudien et a remporté une médaille d'or aux Jeux olympiques de Tokyo 2021. Ganjizadeh a remporté le match final du comité masculin plus 75 kg aux compétitions olympiques de karaté pour remporter la 13e médaille d'or et la 7e médaille au total pour l'Iran. L'athlète iranien a battu l'adversaire saoudien 4-0 par Hansoukou. Ganjizadeh a remporté la médaille d'or après la disqualification de son adversaire, l'Arabie saoudite Tarek Hamedi. Un coup de pied de Hamedi a assommé Ganjizadeh qui a été emporté sur une civière. Le karatéka iranien avait battu le turc U Aktas pour atteindre la finale avec 7 médailles. L'Iran occupe désormais la 27e place au classement des médailles des Jeux olympiques de Tokyo 2021. Les Jeux olympiques ont débuté dans la capitale japonaise le 1er août. L'Iran demande de démêler les dimensions cachées de l'incident de Mazar-e-Sharif. À l'occasion du 23e anniversaire du martyr des diplomates iraniens à Mazar-e-Sharif, le ministère iranien des Affaires étrangères a publié une déclaration demandant la clarification de la vérité derrière l'incident terroriste. La déclaration se lit comme suit. Le 8 août rappelle l'un des jours les plus amers pour l'appareil diplomatique de la République islamique d'Iran. Il y a 23 ans, ce jour-là, des diplomates iraniens et un journaliste étaient lâchement martyrisés au consulat général de la République islamique d'Iran à Mazar-e-Sharif en Afghanistan. En violation des lois et traités internationaux et de la logique islamique et humaine. La sympathie internationale va au peuple et au gouvernement d'Iran à la suite de cet incident terroriste et à l'expression de la sympathie particulière du peuple opprimé d'Afghanistan qui a lui-même été victime d'un terrorisme aveugle, met en lumière une autre manifestation éclatante des liens profonds entre les peuples des deux pays. Les liens qui se sont toujours tissés au milieu de guerres injustes contre le peuple opprimé d'Afghanistan réitèrent le soutien mutuel du peuple iranien à ses frères et sœurs afghans opprimés. Les liens profonds et véritables entre les deux nations iraniennes et afghanes ne laissent d'autre choix que d'adopter des approches constructives visant à garantir les intérêts des deux pays. Le peuple et le gouvernement de la République islamique d'Iran, comme par le passé, se tiennent aux côtés de leurs frères et sœurs en Afghanistan et aident à trouver une solution pour mettre fin à plus de 4 décennies de guerre impitoyable et protéger les réalisations du peuple afghan et le sang de milliers de martyrs. La République islamique d'Iran, tout en commémorant les martyrs de cet incident et en condamnant fermement l'acte terroriste, continue de chercher à clarifier les dimensions cachées de cette affaire en tant que demande définitive du gouvernement et du peuple iranien. L'anniversaire du bombardement atomique d'Hiroshima et de Nagasaki, un rappel de grands crimes américains contre l'humanité, insiste Téhéran. Saïd Ratibzadeh, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, a qualifié le 73e anniversaire du bombardement atomique d'Hiroshima et de Nagasaki de rappel du grand crime américain contre l'humanité et a déclaré « Cet événement tragique a montré que les États-Unis ne renoncent à aucun moyen inhumain en vue d'atteindre leurs objectifs illégitimes et irrationnels ». À l'occasion de l'anniversaire du bombardement atomique d'Hiroshima et de Nagasaki par les Américains en 1945, Saïd Ratibzadeh a ajouté « Le mémorial des victimes de cette tragédie rappelle au monde la nécessité de poursuivre et de réaliser sérieusement le noble idéal d'un monde exempt d'armes nucléaires dont l'ombre néfaste met toujours en danger la paix et la sécurité internationale. » Les pays ayant des armes nucléaires, tels que les États-Unis, ont déclaré leur engagement explicite en faveur d'un désarmement nucléaire permanent dans le cadre d'accords internationaux, en particulier le traité de non-prolifération TNP. Cependant, non seulement aucune mesure pratique et sérieuse n'a été prise jusqu'à présent par ce pays, et surtout les États-Unis, qui disposent l'arsenal le plus considérable d'ogives atomiques dans le monde, modernisent de plus en plus leurs armes et transforment leurs armes nucléaires en une doctrine de sécurité militaire, a ajouté le porte-parole de la diplomatie iranienne. Mercer Street, l'ambassade d'Iran à Londres, réagit à la propagande britannique. L'ambassade d'Iran à Londres a répondu à la propagande, je cite, de l'ambassadeur du Royaume-Uni auprès des Nations Unies sur l'attaque du navire Mercer Street près de la côte d'Oman. Le compte Twitter de l'ambassade d'Iran à Londres a accusé le Royaume-Uni d'application discriminatoire du droit international en ce qui concerne l'Iran. L'ambassadrice du Royaume-Uni auprès de l'ONU, Barbara Woodward, a accusé l'Iran d'attaques délibérées et ciblées contre le navire et de mépris du droit international, affirmant que la nourriture et les marchandises dépendent de la navigation commerciale. L'ambassade d'Iran a déclaré dans un tweet en réaction « Bon point, la nourriture, les marchandises et la navigation commerciale de l'Iran sont également menacées depuis des années, soit par des sanctions illégales, soit par des attaques contre ces navires. Mais aucune réaction. Le droit international s'appliquera à tous et fonctionnera pour tous. Les allégations graves ont besoin de preuves tangibles », a-t-il dit. Autre thème, près d'une douzaine de pays européens ont envoyé des messages de félicitations à Ebrahim Raisi pour son investiture en tant que nouveau président iranien. Les derniers messages ont été envoyés par le président italien Sergio Mattarella et son homologue portugais Marcelo Rebelo de Sousa. Le premier ministre belge Alexandre De Croo a également félicité Raisi pour son investiture. Dans leur lettre, les trois responsables européens ont exprimé leur volonté d'élargir leurs liens avec Téhéran. L'Autriche, la France, la Croatie, la Grande-Bretagne, la Serbie et la Suisse ont déjà félicité Ebrahim Raisi. Il a prêté serment en tant que 8e président iranien jeudi, après sa victoire aux élections du 18 juin. La cérémonie d'investiture a eu lieu au Parlement iranien, de hautes autorités étrangères y étaient également présentes. L'accord nucléaire de 2015, Washington a appelé Téhéran à reprendre rapidement, je cite, les pourparlers visant à relancer l'accord nucléaire de 2015, JCPOA. Ned Price a ajouté que les États-Unis espèrent que l'Iran saisira maintenant l'opportunité de proposer des solutions diplomatiques. Il a noté que la reprise des pourparlers est l'une des priorités urgentes pour les États-Unis. L'Iran et les autres signataires de l'accord nucléaire ont entamé des pourparlers dans la capitale autrichienne Vienne au cours des derniers mois pour relancer l'accord, mais sans résultat tangible. L'Iran a demandé aux États-Unis d'arrêter de faire des exigences excessives dans les négociations. L'actualité régionale, le mouvement de la résistance libanais Hezbollah dit avoir tiré des dizaines de roquettes sur des zones ouvertes autour des fermes de Sheba occupées par Israël. Le Hezbollah a déclaré que les tirs de roquettes étaient une réponse aux frappes aériennes d'Israël. Aucune victime ni dégâts n'a été signalé. Après l'attaque du Hezbollah, l'armée israélienne a tiré des obus et de l'artillerie vers certaines parties du sud du Liban. La mission de maintien de la paix de l'ONU au Liban dit que la situation est très dangereuse. Il a exhorté toutes les parties à cesser le feu. Mercredi, des avions de combat israéliens ont effectué des frappes aériennes sur le Liban. Tel Aviv a déclaré que les raids étaient en réponse à des tirs de roquettes antérieurs en provenance du Liban. Le président Michel Aoun a dénoncé les frappes aériennes israéliennes comme une menace directe pour la sécurité et la stabilité de la région. Il a déclaré que les frappes aériennes étaient en violation des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Mise en scène, fausse preuve, les États-Unis auront-ils leur guerre contre l'Iran? Réagissant aux menaces du régime sioniste contre l'Iran, le commandant de la force aérospatiale du Corps des gardiens de la révolution islamique, CGRI, a déclaré « Nous répondrons fermement à tout agissement de l'ennemi et ils ne feront pas une telle erreur ». En réaction aux allégations américano-israéliennes selon lesquelles des drones iraniens auraient attaqué un navire israélien dans la mer d'Oman et aux menaces d'attaque anti-iranienne du régime de Tel Aviv, le général de brigade Amir Ali Hajizadeh a déclaré, je cite, « L'Iran a déjà réussi son examen et n'a pas besoin de nouvelles épreuves. Voudrait-il nous tester encore ?» se demande-t-il. Le général Hajizadeh a souligné « Ils nous ont déjà testés et ils savent très bien quelle sera notre réponse. Nous avons à la fois le pouvoir et la volonté d'exercer le pouvoir. » Fin citation. En réponse à la question de savoir quelle sera la réaction iranienne en cas d'attaque, il a répondu « Nous leur donnerons certainement une réponse dure et ils ne feront pas une telle erreur. » Cela intervient alors que les déclarations et allégations désuètes et montées de toutes pièces des pays occidentaux et du régime sioniste au sujet de l'incident du navire israélien Mercer Street se poursuivent encore. l'Iran a payé un prix élevé pour le rétablissement de la sécurité dans le Golfe Persique et en Asie de l'Ouest. Une sécurité stable dans la région est très importante pour l'Iran. La région du Golfe Persique, dont l'Iran détient une part importante et possède le plus d'eau territoriale, est l'autoroute mondiale de l'énergie. Et l'Iran utilise les eaux du Golfe Persique et de la mer d'Oman, non seulement pour exporter du pétrole, mais aussi pour exporter et importer les marchandises dont il a besoin. Il est naturel que cette zone sensible reste en toute sécurité pour que les navires commerciaux soient utilisés à des fins économiques. Et si le moindre danger menace les navires marchands, le processus économique et commercial dans cette zone sera perturbé, ce qui nuira également à l'Iran. Depuis un certain temps, la région du Golfe Persique assiste à des événements qui indiquent un scénario visant à rendre la région précaire. Par moments, des navires cargos sont pris pour cible et explosent dans le Golfe Persique ou la mer d'Oman. Les accusations sont portées contre l'Iran par les médias des pays arabes de la région, dont l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, et les médias du régime sioniste. Ce jeu médiatique montre qu'il y a une coordination entre eux contre l'Iran. L'accord de compromis des pays arabes de la région avec le régime sioniste est l'une des raisons de l'insécurité dans la région du Golfe Persique. Maintenant que les pays arabes ont ouvert leurs portes au régime sioniste, la présence physique des sionistes aux Émirats arabes unis et à Bahreïn a balisé le terrain à leur ingérence et sédition, et avec la complicité et la coopération des régimes arabes, ils tentent de changer la donne au détriment de l'Iran. En attendant, ils pourraient même prendre des mesures aventureuses à l'encontre de la République islamique d'Iran, ce qui se heurtera certainement à une réponse ferme de l'Iran. La moindre agression contre l'Iran peut non seulement mettre en péril les intérêts des pays, régimes provocateurs, mais aussi préparer la région à des événements bien pires, a averti cette haute autorité militaire iranienne.
Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition du débat en ce samedi 7 août 2021. Seyed Ebrahim Raïsi a prêté serment jeudi devant le Parlement en tant que 8e président de la République islamique d'Iran. La cérémonie d'investiture du nouveau président iranien s'est déroulée en présence de hauts responsables militaires et étatiques du pays, ainsi que d'éminentes personnalités invitées venant de 115 pays du monde. Lors de son discours d'investiture, le président Raïsi a parlé d'une nouvelle ère, celle du changement. Et sur le plan de la politique intérieure, il a insisté sur la nécessité de résoudre les problèmes internes, notamment les problèmes de subsistance. Et plus précisément, en effet, il s'est concentré sur la question économique. En politique étrangère, il a insisté sur la nécessité d'une politique extérieur équilibré, d'une politique de bon voisinage, mais aussi et surtout sur la nécessité, l'impératif de la levée des sanctions. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur cette nouvelle ère de changement, le discours d'investiture du président Raïsi et, bien entendu, les évolutions cette nouvelle ère, notamment en ce qui concerne la poursuite des négociations nucléaires. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Ebrahim Raïsi a prêté serment jeudi devant le Parlement en tant que 8e président de la République islamique d'Iran. La cérémonie de prestation de serment du nouveau président iranien, Ebrahim Raïsi, s'est déroulée au Parlement jeudi après-midi en présence de hauts responsables civils et militaires iraniens, ainsi qu'un grand nombre de dignitaires étrangers de plus de 70 pays. Après le discours prononcé par les chefs de pouvoir judiciaire et législatif, Ebrahim Raisi est passé à la tribune pour prêter serment en tant que 8e président iranien après la révolution islamique de 1979. Le message véhiculé par le vote de la nation lors des élections du 19 juin est un message de justice et de marche en avant. « Nous sommes les vrais défenseurs des droits de l'homme », a déclaré le nouveau président iranien, l'ayatollah Ebrahim Raisi. Les crises régionales doivent être résolues par un véritable dialogue intra-régional fondé sur les droits des nations. Je tends une main d'amitié et de fraternité à tous les pays de la région, en particulier les États voisins. Le programme nucléaire de la République islamique est totalement pacifique. L'ordre islamique d'Iran interdit légalement les armes nucléaires. Ces armes n'ont pas leur place dans la stratégie de défense du pays. La politique de pression et de sanctions n'empêchera pas la nation iranienne de faire valoir ses droits légaux, y compris le droit au développement. Les sanctions contre le peuple iranien doivent être levées et nous soutenons tout plan diplomatique qui servira cet objectif. La République islamique d'Iran considère les pays et les nations voisins comme ses proches. La priorité de sa politique étrangère est la promotion des relations avec les pays voisins dont elle souhaite leur dignité et leur progrès. Plus de 100 fonctionnaires des 73 pays ont pris part à la cérémonie d'inauguration de Raisi, dont 10 chefs d'État, 20 présidents de parlement, 11 ministres des Affaires étrangères et 10 ministres, ainsi que des envoyés, des vice-présidents et des présidents de commissions et de délégations parlementaires. Des délégations africaines se sont fait particulièrement remarquer, vu que la quasi-totalité des États africains ont présenté leurs vœux au nouveau président. Le premier ministre algérien s'est déplacé en personne et malgré la pandémie pour assister à la cérémonie.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité. Pour cette émission, nous avons le plaisir d'accueillir depuis Toulouse M. le professeur Pierre Dortiguier, philosophe et politologue français, et depuis Alsace, Maître André Chamy, juriste international et sociologue. Maître Chamy, bonjour et merci infiniment d'être en ligne avec nous.
Bonjour, merci pour votre invitation et mes salutations au professeur Dortiguier.
Le 5 août, Ebrahim Raisi a prêté serment en tant que 8e président de la République islamique d'Iran. Il a parlé en effet d'une nouvelle ère, mais surtout, il a souligné que l'élection présidentielle du 18 juin, en effet, portait un message de justice et de marche en avant. Une première question, Maître Chamy, concernant le message justement de ce discours d'investiture du président Raisi, à la fois sur le plan de la politique intérieure, mais surtout sur le plan de la politique extérieure.
Cette nouvelle élection, pour moi, en tout cas, moi je la qualifierais, c'est le changement dans la continuité, puisqu'il y a eu un changement de président. On considère que ce n'est pas nécessairement la même philosophie politique qu'avait son prédécesseur, qui va aujourd'hui être mise en application. Il n'en reste pas moins qu'il y a deux aspects, à mon sens, qu'il faudrait analyser séparément. Le premier aspect, effectivement, c'est les grandes questions qui concernent la nation iranienne. Et la nation iranienne, c'est-à-dire sa présence dans le monde, ça veut dire ses relations internationales, ça veut dire, en l'occurrence, sa politique étrangère, mais également sa politique de défense, c'est-à-dire les grandes questions régaliennes qui appartiennent à la nation iranienne en tant que peuple et en tant que pays. Et à mon sens, sur ce point-là, il n'y aura pas de changement, il y aura une continuité parce que l'Iran tient à avoir sa place et bien entendu à la favoriser, à la développer à travers le monde. à travers ses relations, à travers ses alliances, à travers ses accords stratégiques, notamment avec les partenaires de l'Est, si j'ose dire, c'est-à-dire la Russie et la Chine, mais même au-delà, et également sa place primordial dans ce que j'appelle moi systématiquement l'axe de la résistance, c'est-à-dire cet axe qui aujourd'hui représente un front face à tous les ennemis de la nation iranienne, mais également face au peuple de la région, parce que cette place de front de résistance face aux ennemis de l'Iran, mais aux ennemis de l'ensemble des peuples de la région. Si l'Iran ne tenait pas cette place, bien entendu, à mon sens, c'est tout le front qui s'effondrerait. Et l'Iran tient toujours à affirmer cette place-là, raison pour laquelle, vous avez pu le remarquer comme moi, la place qui a été accordée aux représentants de l'axe de la résistance qui était présent au cours de cette cérémonie, on a vu si j'ose dire, cette vitrine qui confirme que le front de la résistance ou l'axe de la résistance, c'est le projet d'avenir de l'Iran et c'est la vision d'avenir de l'Iran, parce que c'est la philosophie en réalité que voudrait conserver l'Iran dans les décennies à venir et dans son rôle international. Mais en parallèle à cela, vous avez bien entendu les questions nationales. Les questions nationales, on peut y mettre tout ce qu'on veut, c'est-à-dire il y a le développement économique, mais à travers ce que j'appellerais moi l'économie de la résistance qui a été prônée par le guide suprême, mais également tous ceux qui tiennent à la place de l'Iran dans le monde. L'indépendance de cette nation ne peut se faire qu'à travers une économie indépendante, une économie qui s'autosuffit et qui lui permet bien entendu de ne pas avoir besoin d'autres pays. Et c'est ce qui explique les développements stratégiques en termes de l'armement des défenses, mais également en termes d'économie industrielle, en termes d'économie agricole, en termes d'économie même du service, c'est-à-dire avoir des services qui appartiennent à l'Iran. Et vous avez pu constater comme moi les développements médicaux qui ont eu lieu au cours de ces dernières années, et notamment la production du vaccin et le développement des vaccins locaux. Toutes ces questions-là représentent pour l'Iran aujourd'hui des moyens pour faire face aux défis à venir. Mais au-delà de ça, sans une économie de résistance, l'Iran pourrait être dépendant de tel ou tel pays, et l'Iran ne pourra qu'avoir plus d'autonomie et plus d'indépendance à travers cette économie de résistance. Mais derrière tout cela, il y a également la volonté de faire, si j'ose dire, que le pays en tant que pays, mais également la nation en tant que peuple, et sa place sur la scène internationale, et en faisant en sorte que la jeunesse ait sa place dans l'œuvre de la nation à travers le développement de la politique de l'emploi, à travers le règlement des problèmes économiques, lutter contre la corruption quand on la trouve et là où on la trouve. Toutes ces questions-là concernent uniquement le peuple iranien et ses décisions pour faire en sorte que la place en général de l'Iran se développe et devienne
Merci,
plus importante.
Maître Chami.
Et une fois qu'on a réglé on regardé ces deux questions-là dans le discours, évidemment, on comprend la stratégie de ce nouveau président pour le peuple et pour la nation en Iran.
Merci infiniment pour ces précisions. Restez avec nous, s'il vous plaît, Maître Chami. On va tout de suite rejoindre à Toulouse, Monsieur le professeur Pierre Dortiguier, philosophe et politologue français. Monsieur le professeur, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Je me suis redemandé bonjour à tous vos auditeurs et à Maître Chami, dont j'ai vraiment, vraiment apprécié l'exposé.
Et vous, monsieur le professeur Dortiguier, comment analysez-vous, quel premier regard portez-vous sur, justement, ces deux aspects du discours d'investiture du président Raisi et l'importance, justement, de cette stratégie à adopter et à suivre justement par le nouveau président iranien sur le plan des questions internes et de la politique étrangère.
bien justement un seul mot, à mon avis, qu'il a prononcé, peut les résumer. C'est un concept très, très, très solide. C'est celui du mouvement. Puisque le changement est toujours annoncé, comme on dit, dans les successions de pouvoir. Mais là, il a bien précisé la qualité. À savoir que le mouvement implique une marche, disons, des initiatives, et des initiatives sur les deux plans, justement, le plan intérieur et le plan extérieur. Sur le plan intérieur, disons, qui touche en premier les Iraniens, nous savons très bien, évidemment, il y a la lutte contre la corruption, mais également des initiatives, certainement, d'organisation, de distribution, des modes économiques et autres. Tout ceci implique, disons, je dirais même, certainement, des inventions, des innovations. Sur le plan extérieur, le mouvement veut qu'il y ait d'abord liberté de mouvement, c'est-à-dire que l'Iran se donne la liberté tout à fait naturelle de pouvoir contacter ou aller au-devant de gens qui sont ses alliés, de gens qui se sont présentés comme ses adversaires, mais disons que l'on ne doit pas considérer comme des gens intouchables, mais que l'on peut, par leurs alliés ou par leurs propres alliés ou à travers différents moyens, disons, toucher, disons, pour que les situations ne restent pas dans une sorte de fixation figée, comme on dit, de fixation hostile, et car c'est cela qui est, comme on l'a vu dans l'affaire du dernier pétrolier, par exemple, vous savez, qui a servi de prétexte à une condamnation par le ministre britannique des Affaires étrangères, disons, de l'Iran, tout ça accusé de terrorisme et autres, comme les Israéliens le font. Tout ceci, disons, tout ceci oblige, justement, ces hostilités figées, et ces initiatives militaires, bien sûr, contre l'Iran, oblige l'Iran, justement, à un certain nombre, je reprends le mot, d'initiatives et de mouvements. C'est-à-dire ne pas simplement être en position de défense, de recevoir des coups, je ne dis pas d'en donner, mais de montrer qu'il est, il n'est plus en position de victime, qu'il n'est plus en position, disons, de recevoir des, qu'on peut dire, des sortes de chantages, des chantages au blocus, des chantages que nous avons connus depuis des dizaines d'années, mais qu'il est capable, disons, de s'impliquer, pour le dire les mots français et modernes, de s'impliquer dans des initiatives. J'ai remarqué dans l'exposé qui a été fait de l'intronisation du président que la part importante de l'Afrique, vous voyez, et je crois que là-dessus, on peut estimer que ce mouvement, par exemple, qui porterait l'Iran vers ses alliés naturels, ses alliés en Orient, serait également, bien sûr, très bien vu dans le domaine africain, vu et attendu. C'est surtout cela, surtout dans la période de crise que nous connaissons, qui prend différents aspects, pas seulement sanitaires, mais enfin économiques et autres. Tout ceci est lié, d'ailleurs, est inséparable. Je crois que l'Iran soit en mouvement, que ce soit, disons, le fruit, d'ailleurs, d'une réflexion de tous les partis politiques. Je ne crois pas que ce soit simplement un parti politique
déterminé
en Iran, mais je crois que c'est cela qui est le plus important.
Merci infiniment pour ces éclairages, Monsieur le professeur d'Ortiguilla. Maître Chami, concernant la question nucléaire, le président Raisi a souligné que la pression américaine n'empêchera bien entendu pas l'Iran de faire valoir ses droits. Et dans ce contexte, les négociations sur la relance du plan global d'action conjoint pourraient reprendre en effet après l'entrée en fonction du nouveau gouvernement iranien. Ceci étant dit, à quelle réaction, à quelle approche devrait-on s'attendre de la part de l'administration américaine?
Je pense que vous avez pu constater comme moi qu'aujourd'hui, ce sont les Américains qui voudraient relancer. C'est ça que je considère comme une sorte d'ironie. Parce que c'est eux qui ont rompu, c'est eux qui sont retirés. Et aujourd'hui, ils sont de plus en plus demandeurs de la reprise de ces négociations, tout en voulant faire passer dans ces négociations d'autres questions. À tel point que les Russes ont rappelé qu'il n'y aura pas une seule clause de plus qui serait rajoutée aux accords, parce que les accords concernaient uniquement la question du nucléaire, ils ne concernaient que cela, et par conséquent, l'ensemble des détails avaient été traités tranché et suffisamment discuté avec des engagements réciproques, il n'y a aucune raison que ça soit modifié. S'il devait y avoir des négociations sur d'autres questions concernant le rôle de l'Iran dans dans la région, concernant ses rapports avec tel ou tel pays, concernant le règlement des conflits dans cette zone, que ce soit en Syrie, au Yémen, en Irak, en Afghanistan et même en Libye, dans toutes ces zones-là où le rôle de, ouais, en Afghanistan, il ne faut pas l'oublier, évidemment le rôle de l'Iran est important et peut être utile pour l'ensemble de la communauté internationale. Mais si les Américains veulent mélanger le tout pour obtenir des avancées dans leur sens, à mon sens, ils se trompent et d'objectifs et d'interlocuteurs. Les Iraniens aujourd'hui se comportent en tant que nation indépendante. Une fois qu'elle a signé un accord, elle tient ses engagements. Les Américains devraient en faire autant et ne devraient pas mélanger les objets et les objectifs de cette négociation. Et à partir de là, bien entendu, des choses pourraient être avancées dans un sens comme dans l'autre, mais les Américains devraient comprendre une bonne fois pour toutes que la nation iranienne n'est pas un jouet, on ne peut pas s'amuser avec, et ce n'est pas parce qu'on a changé de président qu'on va changer de stratégie et de politique par rapport aux questions qui concernent la nation iranienne, parce qu'on parle encore une fois d'une nation avec des projets, avec un intérêt supérieur, avec des intérêts stratégiques, et tout cela, les Américains devraient comprendre, devraient le comprendre une bonne fois pour toutes, sinon, bien entendu, il n'y aura pas de reprise de négociation dans un avenir proche, à moins que les Américains aient dans la perspective, c'est-à-dire derrière, de négocier autre chose, mais il faut d'abord qu'ils les séparent intellectuellement et matériellement de leur fonctionnement du quotidien.
Merci encore, Maître Chami. Monsieur le professeur Dortiguier, le président Raisi a été clair, transparent et ferme dans son discours. La question qui se pose justement concernant alors l'approche et l'attitude de l'administration américaine vis-à-vis du nouveau gouvernement iranien. Est-ce que les Américains vont continuer à se tromper, comme disait Maître Chami, d'objets et d'objectifs vis-à-vis du nouveau gouvernement iranien en tentant d'introduire des questions qui n'ont rien à voir avec l'accord nucléaire lui-même?
En effet, cette confusion, peut-on dire, de la conduite du gouvernement américain, c'est-à-dire c'est même marqué chez nous en Europe, parce que quand il s'agit d'une reprise des négociations sur le nucléaire, nous avons, notre propre gouvernement a parlé de la nécessité, disons, d'élargir ceci à des armements, comme les fusées et autres, les engins balistiques, vous voyez, alors qui n'avait rien à voir avec, évidemment, la question atomique. Cette confusion, je répète le terme, est propre au gouvernement américain à cause des influences, de grandes influences, pour parler clair, qui sont en son sein. Vous avez une influence qui est naturelle et normale, qui est celle des intérêts de l'économie américaine, que comme chaque pays, et puis vous avez également, disons, des groupes particuliers qui sont influencés par Israël, il faut bien le dire, et qui naturellement essaient de gripper la machine américaine à leur profit, sans tenir compte peut-être aussi, sans tenir compte certainement même, d'un mouvement qui, aux États-Unis comme partout, disons, essaie, disons, de stabiliser un marché mondial et, disons, de faire respirer même des sociétés qui, en elles-mêmes, disons, portent des germes, disons, des germes assez dangereux, disons, de ralentissement économique, de difficultés sociales et autres. Ceci est tellement assez visible, trop visible pour qu'on n'insiste pas. Je crois que cette sorte de déséquilibre de la politique américaine devra cesser au fil du temps. Et je crois que quand le nouveau gouvernement, quand le nouveau président de la République iranienne parle justement de mouvement, parle de sorte de changement, pas de changement, mais d'une décision, disons, de l'Iran de défendre ses intérêts et d'être présent sur tous les fronts, je crois qu'il y a une vision également de cette recherche d'équilibre mondial, voyez-vous. Je crois que chacun sait, disons, pour faire une conclusion beaucoup plus générale, que chaque pays, disons, chaque, il n'y a pas que l'Orient, il y a l'Orient et l'Occident, toutes ces deux faces du monde ont des difficultés, que ce soit de la Russie jusqu'aux États-Unis, ces difficultés, disons, sont propres au système économique, propres à la modernité, si on peut en parler longuement. Mais disons, l'Iran se situe, disons, dans une perspective réaliste. Il n'y a pas de querelle idéologique avec les Américains. C'est simplement, disons, un rappel au bon sens, comme vous l'avez dit d'ailleurs, comme il a été dit, disons, ce que les Russes ont rappelé, c'est-à-dire qu'on s'occupe de discuter et de résoudre des problèmes qui ont déjà été posés. On ne va pas mêler une deuxième discussion, une troisième discussion. Ça, c'est de la chicane, voyez-vous. Ce sont justement ces gens qui sont à l'intérieur des États-Unis, qui ne défendent pas les vrais intérêts des États-Unis, mais essayent de défendre leur propre puissance en Orient, c'est pas la peine de les renommer. C'est eux, évidemment, qui sont à l'origine, à notre avis, des véritables difficultés entre les États-Unis et l'Iran.
Monsieur le professeur Pierre Dortillier, philosophe et politologue français depuis Toulouse, maître André Chamy, juriste international et sociologue depuis Alsace, je vous remercie infiniment d'avoir été nos invités pour cette émission. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité africaine. Les Algériens sont, pour le peuple iranien, un rappel à l'esprit de la résistance contre les étrangers, a souligné le président iranien Ebrahim Raisi. Les hommes et les femmes des Algériens ont toujours été un rappel au peuple iranien de la volonté et de l'esprit de résistance à l'influence des étrangers, a déclaré le président iranien Ebrahim Raisi lors de sa rencontre à Téhéran avec le premier ministre algérien. L'Iran et l'Algérie ont toujours entretenu des relations amicales et constructives après la victoire de la révolution islamique, a déclaré jeudi Ebrahim Raisi lors d'une rencontre avec le premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman. La politique étrangère du 13e gouvernement est d'élargir les relations avec les voisins et les pays islamiques, et donc nous devons développer des programmes et des mécanismes pratiques pour étendre les relations dans le mandat à venir, a ajouté le nouveau président iranien. La volonté de la République islamique d'Iran est d'élargir les relations avec l'Algérie et l'élévation du niveau des relations bilatérales devrait être une plateforme pour renforcer les relations et la coopération entre les deux pays sur la scène internationale, a précisé Ebrahim Raisi. Lors de sa rencontre avec le président de l'Assemblée nationale du Niger à Téhéran, le président iranien Ebrahim Raisi a déclaré que l'élargissement des liens avec les pays africains, dont le Niger, est l'une des principales priorités de l'Iran, en particulier pendant son mandat. Lors d'une réunion avec Deceni Oumarou, président de l'Assemblée nationale du Niger, le nouveau président iranien Ebrahim Raisi a souligné que les convictions partagées des peuples iraniens et nigériens rapprochent leur cœur. Le nouveau président iranien a déclaré que le niveau actuel des relations bilatérales Téhéran-Niamey est insatisfaisant, réitérant les ministères des Affaires étrangères de l'Iran et du Niger doivent élaborer et mettre en œuvre des plans et des feuilles de route pour identifier toutes les opportunités dans les deux pays visant à élargir les liens, puisque les relations avec les pays africains, dont le Niger, font partie des priorités de la nouvelle administration iranienne. Le président Raisi a déclaré que l'élargissement des relations parlementaires est également l'un des domaines appropriés pour l'élargissement des relations bilatérales, ajoutant que les bonnes relations entre l'Iran et le Niger devraient servir de base au renforcement de nos relations sur la scène internationale. Le président de l'Assemblée nationale du Niger a également félicité le nouveau président de la République islamique d'Iran et lui a souhaité de meilleurs vœux au nom du président et du peuple nigérien. Seni. Oumarou a également souhaité le meilleur souhait pour le peuple iranien et a affirmé « Je porte le message du peuple et du gouvernement nigérien pour l'expansion des liens amicaux et étroits entre nos deux pays. » Recevant ce mercredi le ministre ghanéen du tourisme à Téhéran, le nouveau président iranien Ebrahim Raisi a dit « insatisfaisant le niveau actuel des relations entre l'Iran et le Ghana et d'autres pays africains » avant d'ajouter que le Ghana a une bonne position pour l'activité économique et peut être la porte d'entrée de l'Iran sur le continent africain. Ebrahim Raisi, recevant le ministre ghanéen du tourisme, Ibrahim Mohamed, a remercié son homologue ghanéen pour son message de félicitations, ajoutant « À votre retour dans votre pays, veuillez faire passer le message de la volonté de la République islamique d'Iran d'élargir les relations économiques avec le Ghana ». Faisant référence au mécontentement du ministre ghanéen du tourisme face à la baisse du niveau des interactions économiques de l'Iran avec ce pays, le président Raisi a déclaré « La baisse du niveau des relations avec le Ghana et d'autres pays africains n'est pas acceptable pour le 13e gouvernement et nous utiliserons nos possibles pour réaliser toutes les capacités existantes afin d'améliorer le niveau des relations avec les pays africains. » Pour sa part, Ebrahim Mohamed a transmis les sincères félicitations du président de son pays pour l'investiture du gouvernement Raisi et a déclaré « Nous espérons qu'avec la levée des obstacles, des relations et des interactions entre l'Iran et le Ghana dans divers domaines, dont notamment économiques, vont s'étendre le plus possible. » Se référant à la situation idéale de son pays en Afrique de l'Ouest, le ministre ghanéen du tourisme a déclaré « Le Ghana a une bonne position pour l'activité économique et peut être la porte d'entrée de l'Iran sur le continent. » Des investisseurs exhortent l'Afrique de l'Est à libéraliser le secteur du transport aérien pour stimuler le commerce. Le Conseil commercial d'Afrique de l'Est, une association d'affaires régionales, a exhorté mercredi les États de la communauté de l'Afrique de l'Est à libéraliser le secteur du transport aérien afin de stimuler le commerce intra-régional. Le Conseil commercial d'Afrique de l'Est est la plus importante association régionale du secteur privé des États membre de la communauté de l'Afrique de l'Est, à savoir le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie, le Burundi, le Rwanda et le Soudan du Sud. Gian Bosco Kalisa, directeur général du Conseil commercial d'Afrique de l'Est, a déclaré que les secteurs du transport aérien intérieur restent encore très protégés, limitant le nombre de lignes et faisant augmenter les coûts pour les utilisateurs potentiels. La libéralisation des services aériens dans la région devrait permettre d'augmenter le volume du trafic, d'améliorer la connectivité et de réduire le trafic du transport aérien. Cela stimulera en retour le commerce, le tourisme, les investissements étrangers et la productivité, a ajouté M. Kalisa dans un communiqué. La communauté internationale doit se concentrer sur la recherche de solutions plutôt que sur l'origine du virus. Dans une tribune publiée sur le quotidien sénégalais Le Soleil, le journaliste spécialiste indique que l'avenir des populations et de l'économie mondiale mérite bien que le long change de fusil d'épaule en s'orientant plutôt vers les solutions de sortie de pandémie. Car l'après-pandémie risque d'être elle aussi une belle équation difficile à résoudre, relève le chef de bureau de ce journaliste. Le journaliste sénégalais souhaite qu'on s'intéresse aux réelles motivations des États-Unis qui cherchent toujours à imputer l'origine du virus à une œuvre humaine, celle chinoise. l'urgence ne demeure-t-elle pas dans le combat, la promotion des gestes barrières et la solidarité internationale pour venir à bout de cette pandémie? S'est interrogé M. Diop dans son article. Le chemin de fer Éthiopie-Djibouti reprend ses activités. Le chemin de fer Éthiopie-Djibouti a repris ses activités, a déclaré Dina Mufti, porte-parole du ministère éthiopien des Affaires étrangères. S'adressant aux journalistes, Dina Mufti a déclaré que la ligne ferroviaire et les liaisons routières entre l'Éthiopie et Djibouti fonctionnaient à nouveau normalement. M. Mufti a indiqué que le gouvernement éthiopien s'efforçait en ce moment de résoudre les conflits tribaux liés à l'utilisation des ressources et des conflits qui prennent parfois une tournure politique et perturbent l'activité économique du pays. La voie ferrée Éthiopie-Djibouti, longue de 752,7 km, a ainsi été perturbée pendant plusieurs jours le mois dernier. Environ 95% du commerce d'importation et exportation de l'Éthiopie transite par le port de Djibouti. Eh bien, chers amis, ici touche à sa fin cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne.